Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Premier concours de créateurs d'entreprise à la radio, Nicolas Dose, Eve Chégaré et Sylvain Auribi sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue BFM Academy. Chaque semaine, la RIX entre chefs d'entreprise qui viennent vous raconter ce qu'ils font, mais c'est vous qui allez les départager en fin d'émission. Ça se passera sur le bfmbusiness.com. C'est le nouveau site, vous savez, du nouveau média intégré à la fois télé et radio. Je crois qu'on vous renvoie d'ailleurs sur ce site. Il y a un petit lien qui vous amène sur l'ancien parce que c'est quand même lui qui est véritablement opérationnel. Et puis quand vous irez voter, vous pourrez en plus découvrir la tête de nos deux candidats cette semaine, car ils sont, comme depuis le début de la saison, filmés par tvpro.tv. Et avec Eve Chégaré cette semaine, bonjour Eve.
Bonjour Nicolas.
Elle est coach d'entrepreneurs et de décideurs. Et Sylvain Auribi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, la maison mère des Tekusmi, de la marque Love Organique et des machines à café Jura. On va commencer par l'humeur du coach et ensuite l'humeur du chef d'entreprise.
Volontiers, l'humeur est bonne, comme toujours dans ce
l'humeur
studio.
L'humeur est bonne.
Alors, un mot sur, vous citiez TV Pro et je vois beaucoup de chefs d'entreprise, de jeunes entreprises ou d'entreprises plus confirmées qui ont vraiment le trac devant la caméra. Ça peut se comprendre pour tout un tas de raisons, mais c'est vraiment quelque chose à travailler. Alors, TV Pro sont exposés à ça tout le temps. Moi, je crois qu'un chef d'entreprise aujourd'hui ne peut pas faire l'économie de s'entraîner à être à l'aise dans sa communication, orale en particulier. Et voilà, c'est ma recommandation. Essayez de vous entraîner devant le miroir au minimum, mais il faut assumer.
Une adresse, hein, tvpro.tv, T-I-V-I-P-R-O.tv, ou TV d'ailleurs, on peut dire, on est en France après tout. Sylvain Auribi, l'humeur du chef d'entreprise.
L'humeur du chef d'entreprise, pour une fois, je vais jouer à ma Eve Chégaré et je vais vous parler d'un.
Alors on va voir à quoi ça ressemble.
Je vais vous parler d'un candidat de la BFM Academy parce que j'ai eu des nouvelles très récemment de Hersur qui est passé en début d'année là. Thomas Kerting, voilà. Thomas Kerting est passé en début d'année et Hersur lève 500 000 euros là tout de suite sur alternativa.fr. Alternativa, c'est une plateforme de négociation. On peut introduire sa société en bourse sur Alternativa et c'est ce que fait Thomas Kerting avec son associé Raphaël Camp. Et il lève 500 000 euros. Ils ont fait valoriser leur boîte par un cabinet indépendant à 3,5 millions. Donc c'est pas des petits candidats qu'on reçoit à la BFM Academy comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je voulais vous dire que vous pouviez investir et d'ailleurs c'est déductible, on peut déduire 25% de ce qu'on investit de ses impôts.
Le projet de loi de finances.
Ben oui, c'est bien, mais c'est très intéressant et vous savez que je défends toujours les entreprises et les PME et que voilà une occasion d'investir de l'argent bien placé.
Thomas Kerting donc avec Hersur, il était là dans la première émission de cette saison. C'est un spécialiste du traitement et de la décontamination de l'air intérieur. Il est installé à Paris dans le 6e arrondissement. Avec nous cette semaine, Stéphane Lerouzès, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous, Erwan Goulin, bonjour.
Bonjour.
BFM Academy 2011, uniquement sur BFM Business.
Allez, on va commencer avec Stéphane Lerouzès, notre premier candidat cette semaine. Son portrait dressé par Eve Chégaré, comme chaque semaine. Je vous raconterai après ce qu'il fait dans la vie. Il nous vient d'Antony avec un système carte prépayée, mais je vous en dis pas plus parce qu'après, vous en direz trop.
Eh ben, Stéphane, vous êtes un ingénieur devenu entrepreneur, ingénieur informatique. Alors, en 95, vous sortez de l'université Paris Sud, diplômé de cette formule qui s'appelle MIAGE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà?
C'est la maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises.
Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Vous entrez chez Bouygues comme responsable informatique.
Personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est pas grave.
MIAGE, c'est un mot qui est connu,
ouais,
mais moi, je ne savais
univers,
pas exactement les lettres.
Il y en a plein comme ça.
Rapidement, vous devenez chef de projet Internet chez Data Planet et rapidement aussi, vous créez une SS2I. On est en 2000. En 2003, vous en montez une deuxième qui s'appelle ST Conseil. Précisons que votre spécialité, c'est d'être consultant Windows, Citrix et VMware, spécialiste des projets de virtualisation. Alors, je souris parce que je vous avoue que tous ces mots-là, je les trouve fort techniques, mais c'est votre univers. Chez l'un de de vos clients PSA vont rencontrer Jean-Loup Lasserre. Jean-Loup, c'est en particulier spécialisé dans les services à la personne. En mettant en commun vos expériences respectives, vous étudiez le marché du dépannage informatique pour les particuliers, pour les petites entreprises. Et vous faites ce constat, on appelle à l'aide un spécialiste vraiment au tout dernier recours, quand on n'a plus aucune solution autour de soi. Le frein principal, ne pas savoir sur qui compter ni combien on va payer. Et c'est comme ça que va naître l'idée de la carte Zen.
www.carte-zen.fr carte-zen.fr, c'est une clé USB en fait. Vous la branchez sur votre ordinateur et un technicien vous dépanne à distance immédiatement. Le dépannage informatique immédiat à distance. Voilà comment on pourrait résumer. Ça va jusque-là ?
Tout est parfait.
D'accord. Donc, vous avez un problème de virus, vous avez un problème d'application qui ne fonctionne pas, il y a un périphérique qui est illisible, vous n'y comprenez rien à Excel, ce qui est assez facile d'ailleurs de ne rien y comprendre. 7 jours sur 7, de 10h à 22h, vous pouvez avoir un dépannage à distance et immédiat grâce à la carte Zen. Elle s'achète près de chez soi ou alors elle s'achète en ligne. C'est une carte prépayée qui est dotée d'un connecteur USB qui va permettre ensuite de se payer donc de l'assistance informatique à distance, que l'on soit avec un PC ou que l'on soit avec un Mac. Le temps d'attente avant la prise en charge par un technicien ne sera pas décompté du crédit, tout comme d'ailleurs les opérations passives. Si on vous dit redémarrer votre truc, parce que très souvent il faut redémarrer dans ce genre d'opération, on bloque les compteurs et le crédit n'est pas consommé. Et puis si l'assistance n'a pas été capable de régler votre problème, de la même manière, le temps qui est utilisé ou qui a été utilisé sera recrédité. Alors, question basique, où est-ce qu'on distribue ça ? Alors, en ligne, j'imagine que c'est très simple pour la distribution physique de la carte Zen.
Alors, la distribution physique de la carte Zen, aujourd'hui, est dans une quarantaine de points de vente qui se situent dans un réseau franchisé de recharge de cartouches d'encre que l'on peut peut-être citer.
D'accord, c'est pas bureau de tabac, c'est pas bureau de tabac, c'est très particulier.
Alors, aujourd'hui, c'est les recharge de cartouches d'encre. Ça a été bureau de tabac et marchand de journaux sur Marseille, dans 300 points de vente.
Comment ça se fait ? Vous êtes à Andeny ?
Parce qu'en fait, moi, j'habite la Ciotat.
D'accord.
Donc, je suis de la région D'accord. marseillaise. Et nous avons fait une zone test pendant 3 mois sur 300 points de vente.
D'accord. Et c'est fini, là ?
Et c'est fini, puisque chez les marchands de journaux, c'est par cycle de 3 mois, 3 ou 6 mois. Et donc, nous reviendrons un peu plus tard avec plus de notoriété.
Donc, les marchands de tonnerre d'imprimantes ?
Là, on y est.
D'accord. On rappelle qui sont.
C'est Cartridge World. Bien donc, sûr. Ce sont des recharges de cartouches d'encre ou des cartouches d'encre d'origine. Et nous sommes également en test chez Leclerc, en Bretagne, dans un magasin pilote.
Alors, j'ai pas tellement compris la tarification. S'il y a un prix de départ à avancer avant d'avoir commencé à bénéficier d'une assistance, genre, vous achetez déjà votre carte temps, et puis ensuite, ce sera 49,90€ pour 30 minutes d'assistance, 79,90€ pour une heure, et puis une nouvelle offre à 149,90€ pour deux heures. Voilà. Est-ce que c'est véritablement ce qu'on a à payer, ou est-ce qu'il y a d'emblée, pour l'achat de la carte, quelque chose à payer en plus?
Alors, c'est uniquement ce qu'on a à payer.
D'accord.
Aujourd'hui, l'offre, c'est un petit peu diversifiée, c'est-à-dire qu'on a remplacé, pour certaines offres, la carte USB par une carte classique.
Voilà, où on gratte un numéro.
On dématérialise en fait, mais on a quand même cet élément physique qu'on vient acheter et on vient sur le site pour se faire dépanner.
Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, votre solution. Seulement le problème, c'est que ça n'est consommable que dans la mesure où le problème informatique que l'on a, ça n'est pas un problème de connexion à Internet. Sinon, c'est fini.
Alors,
c'est souvent un problème de connexion à Internet. Mince, j'ai plus de connexion.
Ah, pas que.
Ah oui, mais mince, j'ai plus de connexion. Ça arrive souvent. Ah ben oui, mais comment faire pour aller utiliser mon service carte Zen si j'ai pas de connexion ?
Oui, mais alors Stéphane a une solution pour
alors
vous,
on va
Nicolas.
Voir, on va voir. Allez-y,
j'ai
Stéphane.
Une solution.
Parce qu'honnêtement, ça fait quand même partie des problèmes récurrents.
Ça fait partie des problèmes, mais 80% des problèmes, ce sont des problèmes d'utilisation de l'ordinateur.
Donc
et non
les
pas
brels
des
qui n'y connaissent rien.
Qui n'y connaissent rien ou pour lequel le programme a été mal fait. On va dire bon. Ça aussi comme ça.
Allez, rapidement, avant de laisser la parole
à
Eve.
On peut passer un coup de fil. Alors, la solution que Nicolas a recherchée, c'est qu'on peut téléphoner.
Tout à fait. Sur votre carte, quand vous êtes membre, quand vous l'avez acheté, vous avez un numéro de téléphone et vous pouvez nous joindre. Et à partir de là, nous allons vous dépanner mieux qu'une hotline, puisqu'on ne va pas se limiter à la box qui vous connecte à Internet.
C'est fini les histoires des gens qui appellent et qui en fait réalisent au bout d'une demi-heure de hotline qu'ils n'ont pas branché leur truc sur le secteur. Ça arrive plus, ça, quand même.
Ça arrive encore.
Oh, ces histoires incroyables. Envoyez-moi la disquette. Le gars envoie une photocopie de la disquette. Enfin, à l'époque où il y avait des
disquettes. Et voilà, avec carte Zen aujourd'hui, bon. Vous branchez, ce problème de branchement, il vous aura coûté 10 secondes.
Allez, je termine avant de laisser la parole à Eve et à Sylvain. 170 clients aujourd'hui, surtout des TPE, PME. Ou des particuliers
des
en majorité
particuliers, en majorité
d'accord.
Des particuliers aujourd'hui.
Des vieux qui n'y comprennent rien ou des gens un peu geeks quand même.
Alors, tout. Non, geek non, on va dire que non, on va
d'accord.
Être honnête hein, quand même.
Quand même.
Par contre, toutes les classes de la population, mais il faut le reconnaître, hein, ce sont plutôt les seniors qui ont le pouvoir d'achat pour attribuer du budget à ce genre de réponse.
Vous avez 100% ouais. Du capital avec Jean-Loup Lasserre, vous deux et une troisième personne forme aujourd'hui l'effectif de l'entreprise, vous misez sur 15 embauches d'ici fin 2012 et le chiffre d'affaires, la prévision fin 2012 s'élève à 600 000 euros de chiffre d'affaires donc d'ici on va dire 2 ans. Sylvain et Ève.
Moi, j'ai, ma première question, c'est pourquoi personne n'y a pensé avant quand même? Ça paraît tellement évident à vous écouter.
Alors, c'est la question qu'on s'est posée. Alors, il faut savoir que le dépannage à distance existe, hein, existe dans les entreprises, surtout dans les grosses entreprises. Moi, je fais beaucoup de consulting au niveau des grosses entreprises. Donc, l'idée a été de ramener ce service vraiment au niveau du particulier. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qui, elle, par contre, n'a jamais été inventée pour l'informatique, elle l'a été pour le téléphone. Aujourd'hui, vous achetez une carte de téléphone prépayée,
bien sûr.
Vous avez un forfait de temps, vous l'utilisez quand c'est fini, vous rechargez ou pas. Et ben voilà, là on a adapté cette idée du carte téléphonique à la carte de dépannage.
Et vous êtes le premier.
Et on est les premiers.
C'est incroyable.
Comment est-ce que ça se passe? Moi, voilà, je suis une brêle, comme disait Nicolas tout à l'heure. Je suis devant mon ordinateur, je ne sais pas faire fonctionner une fonction quelconque. Je mets ma carte je mets la clé USB dans mon ordinateur. Et après, il se passe quoi?
Vous mettez brancher la clé USB, un petit message s'ouvre, une petite animation qui vous demande juste de noter votre nom et votre téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Un test de connexion Internet est également fait. Ça nous donnera, nous, un premier diagnostic. Et à partir de là, le technicien voit sur sa console une demande d'assistance et intervient instantanément.
Et il prend la main sur l'ordinateur.
Et il prend la main après vous avoir demandé l'autorisation.
C'est-à-dire que vous avez la souris qui joue toute seule, la flèche qui se balade sur l'écran.
Exactement.
Et il résout votre problème devant vous comme ça en live.
Et il résout votre problème devant vous en live avec une vertu très pédagogique, puisque vous avez vu comment il a fait, et peut-être que la prochaine fois, vous saurez également le refaire.
Est-ce qu'il vous parle en même temps ou c'est juste, on voit juste la flèche bouger?
Il parle au téléphone en même temps?
Alors, il parle au téléphone, c'est le technicien qui vous appelle. On est bien loin des hotlines où vous tombez sur trois niveaux avant d'avoir la bonne personne. C'est le technicien directement qui vous appelle. Comme ça, vous n'avez pas de surcharge téléphonique et vous êtes sûr d'avoir toujours la même personne.
Et comment on est sûr qu'il est disponible au moment où on fait la demande?
Alors, vous faites la demande, en fait, il y a une file d'attente qui est créée, tout simplement. Et nous avons... le temps d'attente qui, bien sûr, n'est pas décompté de votre intervention. Et également...
Si c'est le technicien qui appelle, oui, non, il n'est pas décompté, puisqu'il n'y a pas à attendre, il vous appelle.
Non, de la carte.
De la carte.
Le, temps de la carte
qui est décompté. Oui, d'accord.
Et au bout de 15 minutes maximum, le technicien va prendre la main et va commencer le dépannage.
Bon, le temps d'attente, la file d'attente, c'est 15 minutes
maximum. C'est 15 minutes maxi, en général, suivant les heures d'attente.
Vous avez combien de techniciens aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en technicien opérationnel, nous sommes 3. Un salarié, 2 associés.
Ah, dans les 3 dont j'ai parlé, c'est vous qui décrochez, enfin qui appelez?
Aujourd'hui, oui.
Ah, d'accord.
Et nous avons permanents, on va dire, c'est-à-dire des bonnes âmes qui viennent nous aider sur les coups de bourre, comme on dit, ou là où il y a des appels, puisqu'on met tout en place toute une plateforme de télétravail qui permet de faire également du travail à distance et du dépannage à distance pour le technicien.
Et ces 150 clients ou 170, voilà, aujourd'hui, ils vous appellent plutôt à quel moment? Enfin, comment vous organisez ça pour l'instant?
Alors aujourd'hui, les appels sont pour les PME principalement en journée. Et par contre, pour les particuliers, c'est surtout le week-end, le samedi soir et le dimanche soir quand on a un rapport à rendre.
Bon, et alors comment vous allez faire pour recruter ces 15 personnes?
Alors les 15 personnes au niveau du recrutement, on se base sur mes partenariats avec les SS2I pour pouvoir avoir des CV disponibles et pour pouvoir les embaucher rapidement.
BFM Academy 2011, ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Voilà, donc carte-zen.fr, c'est l'adresse internet de Stéphane Lerouzès et de Jean-Loup Lasserre pour ce service de carte prépayée afin d'avoir des dépannages informatiques à distance pour l'ordinateur. On marque une première pause dans cette BFM Academy, on se retrouve dans un instant.
Golf Plus, le numéro 1 du golf depuis 1982, vous propose de trouver toutes vos idées cadeaux, avec en avant-première de nombreuses nouveautés 2011. Pour offrir en faisant plaisir, rendez-vous dans les 15 magasins Golf Plus et sur www.golfplus.fr.
BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Ève Chégaré et Sylvain Auribi sur BFM Business.
Et cette émission ne marche pas sans un second candidat, c'est la règle du jeu chaque semaine et Erwan Goulin est avec nous. Et Ève Chégaré va nous dire qui était Erwan Goulin. Moi, je vais vous raconter un peu de quoi il s'agit. Je vais essayer de bien le prononcer parce que déjà, c'est mal parti. On y va.
Mais non.
Il a le nom de la boîte.
On verra. Alors, vous avez 30 ans, vous êtes basé à Lorient, mais pourtant résident à Paris. Mais l'entreprise est à Lorient. Vous avez grandi à Tahiti. Vous avez atterri à Lille, puis à Paris et êtes parti ensuite faire une licence d'économie à Dublin, complété à la Reims Management School et parachevé par un master HEC Télécom Paris. Après des stages chez PSA ou Bouygues Télécom, vous démarrez un parcours de consultant chez Ineum pour y faire du conseil en stratégie opérationnelle. Vos missions se déroulent chez Orange, SFR, Ubi France ou encore EDF. Mais la rencontre avec Jean-Baptiste Roger dans un port du Morbihan en décidera autrement. Ce fou de voile a eu l'idée de récupérer de vieilles voiles pour en faire des sacs sous le nom de 727 Sail Bags. Vous suivrez les débuts de son aventure depuis vos missions de conseil et au moment où il a besoin de structurer et développer son entreprise, vous le rejoignez. La troisième associée, c'est Anna Bayou, qui a également créé une ligne de sacs, ça s'appelait Bayana. Et finalement, la complémentarité est évidente. Alors tous les trois, vous créez la structure actuelle début 2010.
www.727sailbags.com, ça vient naviguer, hein, voilà. 727sailbags.com, en un seul mot tout ça. Les chiffres, 7, 2, 7. Suivi de sailbags.com. Je le répète pour que les choses soient très claires. Création en février 2010 à Lorient, dans le Morbihan. On dirait Julien Lepers, vous avez vu qu'il fait son truc là. Vous créez donc de la fabrication de produits de maroquinerie, des sacs à main, des sacs de voyage, des poufs, des transats. Chaque modèle est unique en toile de bateau recyclé. Chaque modèle est fait à la main. Donc vous avez raconté que vous avez réalisé des produits avec la voile du bateau de la navigatrice britannique Samantha Davis, qui a passé deux fois le Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance et l'Équateur. Donc, produit unique, fait à la main, qui dessine et qui réalise les produits, Erwan ?
Alors en fait, c'est surtout Jean-Baptiste et Anna qui sont au design. Chaque produit
d'accord.
est
Anna Bayou, on n'en a pas parlé, mais effectivement, voilà. elle est aussi associée de l'aventure.
Oui, tout à fait, oui. Eve l'a présenté tout à l'heure. Anna, en fait, s'occupe notamment du design féminin et des séries qui sont faites avec les voiles des skippers.
D'accord.
Donc Jean-Baptiste et Anna sont les designers.
Ouais. Et les produits ensuite ?
Et ensuite, une fois qu'ils ont designé un sac, ce sac n'est pas l'assemblage, la confection. Donc on a des couturières qui sont très bien formées.
Vous avez vos couturières.
On a nos couturières. Yes. On est en France et on a nos couturières, comme les grandes maisons.
Ça va plaire aux auditeurs. Je vous rappelle quand même que le type qui a gagné la dernière BFM Academy, c'est un argumentaire qui lui a rendu bien service d'être en France avec des produits en France. Vous savez, le Made in France, il y a des gens aujourd'hui qui vendent des lunettes Made in Jura. Elles sont faites dans le Jura. Mmh. Et c'est plus là, peu importe si on voit bien avec, Made in Jura.
C'est ça compte plus que le gros tampon fabriqué en France.
Oui.
Bon, voilà, vous le site présente la boutique, il y a des sacs femmes, des sacs hommes, il y a du design déco, des poufs, des transats, des lampes, des paravents, des corbeilles, il y a du sur-mesure, alors là vous allez choisir la toile, les lettres et les chiffres qui seront inscrits dessus, et puis il y a des séries limitées, donc des collecteurs signés par des skippers. Il existe 15 points de vente en France, 3 à Paris, 1 à Marseille, les autres sont globalement dans le Grand Ouest, on va dire. Il y a un point de vente en Suisse, un en Espagne, il y a un contact à Saint-Barth, les clients sont des particuliers en vente directe. Il y a des distributeurs aujourd'hui qui vendent vos produits ?
Oui, tout à fait. Oui, vous avez cité 15 points de vente, donc à Paris.
Oui, mais dites-moi plus. Les distributeurs, pour l'instant, c'est quand même très flou tout ça. Vas-y, racontez-moi.
Donc en fait, il y a plusieurs types de distributeurs. Il y a des concept stores qui sont des magasins comme Maison des Rêves dans le 6e à Paris. On a à l'île de Ré un magasin qui s'appelle Migration. Donc ce sont des boutiques qui font beaucoup de déco. Donc,
je peux aller voir si je veux un produit sur mesure. Je peux aller dans la boutique et commander mon produit sur mesure ou...
Alors non.
Donc juste pour acheter les produits existants déjà.
Exactement.
En modèle unique fait à la main.
Tout à fait.
D'accord.
Exactement.
On peut les commander sur Internet.
Oui, vous pouvez commander sur Internet.
Et des entreprises donc, qui sponsorisent la voile pour faire des cadeaux. Vous en avez beaucoup, des entreprises qui vous ont demandé de faire des cadeaux très spéciaux avec une voile très spéciale qui a équipé un bateau très spécial qui a remporté une course unique.
Tout à fait.
Un exemple.
Alors, le dernier exemple en date, c'est le Armel Lecléache qui a été deuxième du dernier Vendée Globe 2008-2009. Ouais. On a fait 50 sacs dans ces voiles du Vendée Globe. Et donc, ces voiles ont effectivement, comme celle de Samantha Davis, passé le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Horn.
Wow.
Donc, il a signé tous les sacs à l'intérieur. Génial. En faisant une description de son petit parcours. Et Britair a offert ces sacs à leurs meilleurs clients. Donc on a fait la même chose avec Veolia, avec d'autres grands groupes qui s'investissent beaucoup dans la voile.
Elles allaient où avant ces voiles ?
Elles allaient à la décharge, et la plupart y vont toujours d'ailleurs, à la décharge.
Sans être recyclées, réutilisées, rien.
En fait, la vérité sur ces voiles, c'est qu'il y en a une partie qui va à l'incinération, donc qui est brûlée, une autre partie qui est en carbone, spectra ou kevlar, qui ne brûle pas, et donc qui vont à l'enfouissement. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 300 000, 500 000 mètres carrés de voiles qui sont enterrées quasiment chaque année. Donc notre objectif premier, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait plus.
Alors vous dites dans la fiche que vous avez remplie pour arriver à l'émission, vous dites qu'elles sont toutes fabriquées à la main en France et ont un goût de sel. Alors, oui. Est-ce que c'est vrai?
Ah, c'est vrai, vraiment.
Ou est-ce qu'ils ont un goût de sel?
Si on met sa langue sur son sac, c'est salé.
Alors, en fait, ouais, dans la plupart du temps, on n'a pas l'envie de nettoyer la voile et pas le besoin. Donc, les voiles sont salées. Donc, les couturières ont les mains salées à la fin de la journée. Les aiguilles de la machine à coudre rouillent. Et donc, quand on fait les démos de temps en temps des sacs, on mouille son doigt, on le passe sur le sac et on a du sel sur le doigt. Et c'est vrai. Après, on a aussi tendance de plus en plus à laver les voiles qui sont un peu poisseuses ou un peu
sales.
Oui,
parce que les mouettes en Bretagne, ça peut laisser des traces quand même sur les sacs, c'est pas très joli, vous voyez.
Uniquement en Bretagne.
Uniquement en Bretagne, oui.
Les mouettes de Méditerranée sont beaucoup plus propres, c'est connu. Bon, allez, je termine vite les chiffres clés, je laisse la parole à Sylvain et à Eve. 727 Sailbags, je rappelle le nom de l'entreprise. Vous, Jean-Baptiste Roger, Anna Bayou, 5 personnes au total, dont vous, hein. 3 embauches en 2011, 5 en 2012. On a 103 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'est passé, c'était fin juillet 2010. Il y aura 240 000 euros de chiffre d'affaires fin décembre 2010, à la fin de cette année, donc tout de maintenant, là. Et 500 000 euros prévus à la fin 2011. Et alors, il y a plein d'ambitions, hein, des nouveaux locaux, un nouveau showroom, réduire les coûts, industrialiser les process, voilà, lever des fonds, embaucher des commerciaux.
Bon, alors moi, je rebondis sur ce que vous avez écrit dans l'affiche d'inscription pour l'émission. Vous avez écrit « C'est maintenant que les Louis Vuitton de demain arrivent sur le marché ».
Aïe, aïe, aïe.
Je voudrais savoir ce que vous allez nous dire sur le sujet. Non, mais sérieusement, vous pensez que vous êtes amené à devenir une grande boîte
hein? Pas forcément grande en termes de nombre de personnes ou quelque chose comme ça. C'est une ambition, c'est un rêve. L'ambition, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de voiles qui terminent à la poubelle. La seconde, c'est de rester fabriqué en France, parce qu'on trouve ça triste quand même que tout le monde parte à l'étranger. Mmh. Et mine de rien, ça résoudrait beaucoup de problèmes si on achetait des choses françaises. Donc il y a cet aspect écolo, cet aspect un peu éthique de fabriquer ici. Et puis il y a le rêve d'être une grande marque un jour sur un nouveau créneau, parce que c'est un nouveau créneau, donc pourquoi pas devenir une grande maison quelque part en montant en qualité. Après on est trop jeune aujourd'hui, mais c'est un rêve, c'est pas un objectif, on y arrivera.
Alors peut-être revenons dans la réalité une minute. Combien de voiles avez-vous récupéré déjà depuis que vous avez commencé?
On a récupéré à peu près 250 cette année.
Et alors vous comptez en récupérer combien? Parce qu'il y en a, beaucoup comme ça qui traînent dans la nature.
Oui, il y en a énormément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a à peu près 300 000 mètres carrés qui vont à la poubelle chaque année. Donc 300 000 mètres carrés, ça peut faire entre 300 000 et 1 million de sacs par an.
Bon, alors si prenons une voile. Moi, j'y connais rien en voile, mais prenons une voile moyenne. Vous faites combien de produits dans une voile moyenne comme ça?
Alors ça dépend de la taille de la voile.
Déjà, ça dépend de la taille du produit. On sait bien tout ça, mais en moyenne.
Déjà, est-ce que vous l'achetez la voile?
Alors la voile, en fait, on peut l'acheter de toute façon, elle a un coût, c'est le coût du recyclage, le coût de la collecte, et comme le fait
les
grandes boîtes de Veolia.
Ça vous coûte quand même pas plus cher que de la récupérer pour l'enfouir, j'imagine.
Non,
enfin, j'espère.
Ça coûterait moins cher si on achetait de la voile neuve et qu'on faisait découper et fabriquer.
Il n'y a plus d'histoire à raconter.
Il n'y a plus d'histoire à raconter, il n'y a plus de concept de recyclage, il n'y a plus de fabrication française. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'ambition. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, pour faire très simple, c'est un sac par mètre carré de voile. Donc une voile fait en moyenne 40 mètres carrés. Vous faites 40 sacs dans une voile.
Bon,
c'est très simpliste, mais c'est comme ça.
Un sac qui n'a pas une histoire totalement incroyable, il coûte combien? Genre un sac dans une voile qui est une voile.
Alors un sac coûte à peu près de 120 à 150 euros dans une voile classique.
Et alors un sac incroyablement signé qui a fait 10 fois le tour du monde, qui a connu le grand navigateur du moment, là ça peut aller très loin?
Ça va jusqu'à de 200 à 350 euros. Parce qu'aujourd'hui, on veut monter en gamme, de faire des sacs encore plus jolis et encore mieux finis. Aujourd'hui, c'est un peu la limite qu'on se fixe, parce que le concept aussi est de plus en plus connu. Mais un sac signé par Michel Desjoyaux est parti aux enchères à 800 euros il y a quelques jours.
D'accord.
Et pourquoi aux enchères?
On a fait une vente aux enchères pour subventionner une association caritative qui aide les enfants de Colombie à être adoptés.
En plus,
ce sac est parti là-bas.
En plus,
ils subventionnent.
Alors, ils font travailler des couturières françaises, comme à l'époque, à la grande époque, des petits mouchoirs de Cholet. Et en plus, ils ont des... ils agissent dans le caritatif.
Ouais, tous les skippers,
ça, comme Mark Zuckerberg.
Qu'est-ce que ça a de plus aujourd'hui, votre entreprise, comparé au petit business qui était celui de votre associé quand il a commencé, à la petite boîte qui était celle de votre associé Anna quand elle vendait ses sacs de son côté? Qu'est-ce que ça donne, cette union là?
En fait, on a trois profils qui sont très complémentaires, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a Anna qui est très créatrice et qui a beaucoup d'amis dans le milieu, donc qui connaît bien, qui aime collecter les voiles, qui a un sens du design. Jean-Baptiste qui lui est un pro de la fabrication, un peu le Léonard de la bande dessinée, qui a en plus un rapport humain avec les couturières qui se passe super bien, et moi qui suis plus ce côté business, etc. Donc en fait le problème des sacs en voile et d'une fabrication française et du recyclage, c'est qu'aucun des deux en gros vivait auparavant. parce que ça coûte cher, parce qu'on vend pas cher. Et donc l'idée, c'est d'essayer justement de faire vivre des gens tout en continuant à recycler et fabriquer en France.
Et tous les trois, vous en vivez ?
Bah, comme tout le monde aujourd'hui, non. Anna et moi, on n'a pas de salaire. On espère justement, c'est l'ambition l'année prochaine, c'est avoir un salaire tous les deux.
Dernière question, Sylvain.
C'est pas une idée nouvelle, ça. Il y a des gens qui font ça déjà.
Tout à fait. Ça existe depuis toujours. Donc il y a eu beaucoup. En fait, ce qui a démocratisé un petit peu, c'est Cuba en Angleterre, qui a fait ça dans les années 90. Puis en France, il y en a eu plusieurs acteurs au début des années 2000. Et nous, Jean-Baptiste a créé ça 2003-2005.
Et alors, dans le même style, il y a des gens, une entreprise que je connais, qui s'appelle Chic Éthique, qui récupère les bâches qui sont sur les grands magasins et qui en fait, comme vous, des sacs ou des objets divers et variés. Donc c'est une idée qui est intéressante, qui n'est pas nouvelle, mais qui peut être déclinée de plusieurs façons, en fait.
Écoutez, récemment, rien que pour BFM Academy, j'en ai eu 5 des marques de sacs avec des idées de recyclage, etc. Oh. Mais c'est quand même vous qui étiez le plus structuré, il m'a semblé.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'on pense qu'il y a un marché qui se crée, quoi.
BFM Academy 2011. Ils y croient, mais croirez-vous en eux ?
Voilà, donc Erwan Goulin, notre second candidat cette semaine avec 727sailbags.com. C'est le site internet, la maroquinerie en modèle unique taillée dans des voiles recyclées de bateaux. Et pour certaines voiles, elles ont vécu une histoire illustre. A tout de suite pour la deuxième partie de cette émission.
BFM Weekend, 12h30.
Et tout d'abord, bien sûr, à 12h30, les conditions météo et de circulation ce week-end de départ en vacances de Noël. La neige est au rendez-vous sur le nord-ouest et le nord. Désormais, ce sont 30 départements qui sont placés en vigilance orange avec une perturbation neigeuse qui se déplace d'ouest en est. Elle va concerner l'Île-de-France cet après-midi pour plusieurs heures, puis elle se déplacera dans la soirée vers la Champagne-Ardenne et le nord de la Bourgogne. La neige, auparavant, a déjà touché le Grand Ouest, provoquant d'importantes difficultés de circulation. La Nationale 76, notamment, est coupée dans le sens Bretagne-Normandie. En Bretagne, toujours environ 400 automobilistes ont été bloqués hier soir sur la rocade de Fougères en Ille-et-Vilaine à cause de camions en travers de la voie. Autre difficulté, cette fois-ci en Picardie où il a beaucoup neigé ces dernières heures. Conséquence, les autoroutes A28 et A1 sont en partie fermées dans le département de la Somme. À suivre, donc, je vous le disais, dans les prochaines heures, l'arrivée de la neige sur l'Île-de-France où la circulation des poids lourds est totalement interdite depuis une demi-heure maintenant et ce jusqu'à nouvel ordre. Bison Futé a classé orange ce samedi de départ en vacances. Mais pour autant, pas de difficultés majeures signalées pour l'instant. Beaucoup de monde attendu également dans les gares et les aéroports. 700 000 voyageurs ce week-end, rien qu'en Île-de-France. Deuxième grand titre de l'actualité, le statu quo pour l'instant en Côte d'Ivoire, malgré les pressions internationales qui se sont fait plus fortes hier pour réclamer le départ de Laurent Gbagbo. Des menaces de sanctions ont été brandies par l'Union européenne et par les États-Unis. Même l'ONU évoque une parodie de démocratie. Toujours à l'étranger, je vous en parlais dès midi, un colis suspect a été découvert hier soir, ce qui a entraîné la fermeture d'un aéroport de la côte ouest en Norvège. Pas plus de précision pour l'instant. Dans le reste de l'actualité, selon le Figaro, l'agence du médicament avait été alertée dès 1998 par 3 médecins de la sécurité sociale des risques potentiels du Mediator en tant que coupe-faim. L'article ajoute que le nombre de victimes, selon une évaluation faite par des épidémiologistes, serait compris ce nombre donc entre 1000 et 2000 personnes, bien plus que le chiffre officiel de 500 morts. Fernand Duchossoir, réélu il y a quelques instants à la présidence de la Fédération française de football avec près de 80% des voix. Séance houleuse ce matin, marquée par l'adoption de la réforme de la gouvernance de la 3F, qui prévoit notamment cette réforme une plus grande place accordée aux clubs professionnels en contrepartie d'une pérennisation de l'aide financière versée au football amateur. Le nouveau mandat de Fernand Duchossois est provisoire, 6 mois seulement, jusqu'au prochain scrutin prévu le 18 juin 2011. Le foot sur le terrain, c'est ce week-end la 18e journée de Ligue 1, 7 matchs dès aujourd'hui. Parmi les leaders du championnat, seuls 2 clubs jouent ce soir. Le PSG 2e reçoit Monaco et Rennes 4e accueille Valenciennes. BFM Business, il est pratiquement 12h33. Jusqu'à 13h, vous retrouvez Nicolas Dose pour la suite de BFM Academy 2011.
BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaré et Sylvain Oribi sur BFM Business.
Retour dans BFM Academy, avec moi aujourd'hui le leader de l'assistance informatique instantanée.
BFM Academy 2011, la mouche du coach.
Oui, il existe. Il est pionnier, il est leader de l'assistance informatique instantanée. Il s'appelle Stéphane Lerouzès et il a créé, enfin, il a co-créé avec Jean-Louis Lasserre, carte-zen.fr. C'est un système de cartes prépayées. Alors, il y a soit la carte munie de la clé USB, soit celle que j'ai sous les yeux, la carte prépayée classique comme pour le téléphone où on a un pictogramme qu'on va gratter. Vous savez, le truc totalement illisible comme pour les jeux françaises des jeux. Mais derrière, vous avez un numéro qui va vous permettre d'assister.
De vous faire assister,
d'accéder à un service de dépannage informatique à distance, 7 jours sur 7, de 10h à 22h, pour tous vos petits problèmes de virus, d'application, de ceci, de cela. Enfin, dès que vous avez un problème d'informatique, il vaut mieux avoir une connexion Internet, parce qu'effectivement, ça va être plus compliqué. Mais il nous a dit que dans 80% des cas, c'était pas un problème de connexion Internet, c'était autre chose. Oui. Enfin, même d'apprentissage, je sais pas si on vous appelle pour prendre des cours.
Oui, on fait également des formations, puisque l'intérêt de la carte, c'est d'avoir une formation, non pas une session de 2 heures d'affilée. Oui, on ne se souvient plus de rien au bout des 2 heures, mais d'avoir en temps réel, quand vous êtes disponible, une formation qui va s'étendre sur 3 fois 1/4 d'heure ou des éléments comme ça qui vont pouvoir de maîtriser le sujet.
Quand on veut rentrer dans des logiciels type Excel de manière un peu approfondie, c'est quand même une aventure, quoi. C'est un métier même. Il y a des gens dont c'est le métier.
Alors, il y a des gens dont c'est le métier, mais faire un tableau pour suivre ses comptes, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Non, mais si vous n'avez pas une formation, vous êtes déjà perdu.
Cette carte est rechargeable sans abonnement, sans engagement, sans limite de validité.
Et vous voyez, si tout d'un coup Nicolas Sylvain est très gentil avec Stéphane parce qu'il vient de recevoir une carte cadeau de 9,90€ comme Eve et moi. D'ailleurs, on va être super sympa avec lui parce que maintenant, Nicolas n'aura plus de problème informatique. Maintenant, il va pouvoir téléphoner en ligne pour savoir comment marche son ordinateur.
Si je vous appelle, je peux mettre Skype grâce à vous, vous savez le faire?
Tout à fait.
Ah ben c'est bien, sans parce que voilà, je ne me suis jamais posé la question. Si je...
Nous allons skyper ensemble, Nicolas.
Je vais gratter mon pictogramme.
Moi, ce que je trouve vraiment super, c'est cette idée d'apprendre des choses au moment où on en a besoin. Parce que pour avoir consommé ce genre de prestations, je peux vous dire qu'au moment où on a ces 2 heures avec le prof, on n'a finalement pas forcément un problème aigu à régler. 2 semaines avant, on aurait eu besoin de se faire aider sur autre chose, mais on a trouvé une autre solution entre-temps. Je pense que ce qui fait la grande différence, c'est de pouvoir aller chercher l'info au moment où on le veut. Mais la question que je me pose, c'est quand même sur le flux et la disponibilité que vous pouvez proposer à vos clients. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de plus à l'heure pour étayer votre
le flux et la disponibilité pour assurer.
Parce qu'actuellement, comme vous êtes avec nous, il y a que Jean-Loup qui est là pour répondre aux clients.
Alors aujourd'hui, il y a Cyril qui est également là. Mais comme je vous le disais, en fait, on a besoin donc de financer l'entreprise pour la croissance. On a également besoin de trouver des diffuseurs et le financement permettra en même temps que la diffusion, d'augmenter les équipes techniques. Les équipes techniques vont augmenter, mais nous avons mis en place toute une plateforme qui permet d'avoir des gens en permanence devant la console, mais également un système d'astreinte avec du télétravail.
Quand vous dites lever de l'argent, dites combien vous voulez lever, parce que c'est un peu la bonne adresse ici.
Alors, aujourd'hui,
il y a des gens qui, globalement, à mon avis, pour beaucoup, comprennent l'informatique, mais par contre, ils ont d'autres atouts qui peuvent vous intéresser.
Aujourd'hui, très clairement, nous avons chiffré à 450 000 euros notre besoin, qui doit financer justement notre développement au niveau de la commercialisation.
Avec ouverture du capital, donc.
Avec ouverture du capital, bien sûr.
Vous êtes à 100%, donc il y a de la marge.
Il y a de la marge, et pour accompagner aussi le développement des équipes techniques. La plateforme technique, elle, est parfaitement opérationnelle. Nous avons passé, depuis maintenant presque un an et demi, du temps pour la mettre en place. Tout est opérationnel, tout fonctionne. Il manque le go pour une diffusion à l'échelle nationale. Bon.
Moi, je trouve ça très malin, ce que vous proposez là. C'est très bien fait. Le site que j'ai visité en profondeur est super clair. Ça, c'est intéressant parce que quand vous êtes une brêle, comme disait Nicolas tout à l'heure, ou un senior, vous savez pas trop comment vous servir de la carte, le site est très clair, très didactique. Vous proposez beaucoup de choses, à la fois des cartes initiatives, tranquillité, premier dépannage.
Et puis c'est très marketé.
Oui, c'est un très bon marketing. Des solutions antivirus, des packs vidéo, photos, la vente de matériel. Oui,
je peux rebondir sur la solution antivirus. C'est typiquement une offre carte zen, c'est qu'on vous vend un logiciel, l'antivirus, mais plus que ça, on va vous l'installer et en plus on va vous former. Contrairement à un produit que vous allez trouver en boutique où vous vous retrouvez avec votre boîte, vous le mettez dans l'ordinateur et là, vous ne savez plus quoi
ça
faire.
Ça s'arrête, on ne sait plus quoi
faire. Carte Zen vous accompagne jusqu'à la formation, jusqu'à l'utilisation, jusqu'à l'installation sur l'ordinateur.
Oui, très bien. Alors moi, à part ces choses que je trouve formidables, moi je trouve que Carte Zen pourrait être utilisée par tout un tas de gens autour de moi. J'ai une question sur votre distribution. Parce que là, vous voulez être distribué dans, en gros, les bureaux de tabac, les kiosques à journaux ou que sais-je encore.
Et
je me demande si c'est pas quelque chose qui va vous coûter très cher de mettre en place cette distribution, parce qu'il va falloir déposer ces cartes à ces endroits-là. Je me demande si ça va pas être trop cher, s'il faut pas chercher plutôt un modèle qui soit une distribution par Internet, que vous vendiez votre carte sur Fnac.com, Amazon, etc., plutôt que d'aller vous prendre la tête, aller envoyer ça à tous les marchands de journaux de France.
Alors c'est une question qu'on s'est posée, on a fait le test sur les marchands de journaux. Aujourd'hui on se recentre vers un réseau de diffusion qui est plus cohérent, donc les enseignes qui ont un rayon informatique, qui ont un rayon multimédia, ou des enseignes spécialisées comme la recharge de cartouches d'encre, ou pour les pros, le consommable. Donc on s'est recentré là-dessus. Par contre la boutique est importante, c'est un produit physique qu'on a besoin de toucher justement transforme le service en produit.
Parce que là, votre grand truc, c'est ça, c'est justement de rendre le service palpable.
Parce que là, pour l'instant, les points de vente dont vous parlez sont des points de vente qui sont fréquentés par des gens qui ne sont pas les plus neuneux en informatique, a priori. C'est pas la clientèle qu'on touche en faisant de la pub avant 20h sur TF1 et France 2.
Alors, ce ne sont pas des neuneux, parce qu'ils utilisent l'ordinateur. Par contre, ce ne sont pas des férus d'informatique. Tout le monde a besoin de cartouches d'encre pour imprimer.
C'est vrai.
Que vous soyez spécialiste ou simple débutant.
C'est vrai. Bon, il est vrai aussi, d'ailleurs, qu'on rigole, mais enfin, on a tous des niveaux. Quoi, 2 ou 3 en informatique, on n'est peut-être pas au niveau 0, mais dès qu'on a un problème niveau 4 ou 5, on est planté. Et ça, c'est la vérité.
Et puis, hein. Où qu'on soit, on peut rencontrer un truc qui coince et vouloir s'améliorer.
Il y a une autre question que j'avais pour vous, Stéphane. Dans votre fiche, vous parlez à plusieurs reprises d'un manque de notoriété, d'un besoin de notoriété. Et on n'a pas le sentiment que vous fassiez quoi que ce soit pour l'acquérir, cette notoriété. Alors qu'il y a quelqu'un, vous êtes tous des geeks, là, tous des techniciens, et il n'y a personne qui fait du marketing derrière. Vous n'avez pas votre page Facebook, votre Twitter, etc.
Alors, je pense que vous avez vu un peu notre site, vous avez vu nos produits. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup marketé. On a un produit qui nous semble séduisant, qui séduit en tout cas en magasin. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, sur le produit lui-même, encore une fois, c'est vraiment un produit. La notoriété de la marque, elle vient ensuite, mais par contre, elle coûte cher, vous le savez. Et donc, la levier de fonds doit nous aider à atteindre ce niveau de notoriété.
C'est uniquement la seule raison de cette levée de fonds, c'est de pouvoir investir en pub, en fait.
Pas en pub, c'est augmenter les équipes techniques. C'est avoir une cohérence sur la croissance et maîtriser la croissance sur tous les postes.
Alors si on se projette à quelques mois ou un an ou deux, vous avez les 15 personnes dans l'équipe technique, les fonds sont arrivés évidemment, la carte Zen est distribuée dans les endroits qui vont bien, magasins d'informatique et autres, ce sera quoi le challenge d'après ?
Alors le challenge d'après, c'est un modèle qui peut s'exporter facilement. On peut dire que tous les pays du monde ont ce problème. Cartazen, pourquoi pas? Je sais qu'aux États-Unis, ce principe n'existe pas non plus. Donc, un énorme marché potentiel. Et puis, nous avons d'autres idées également dans les cartons, puisque nous l'avons appelé Cartazen et non pas un nom d'ordinateur pour pouvoir dériver sur des produits différents qui seront tous à distance, comme un exemple parmi tant d'autres, de la télésurveillance ou des éléments de ce type-là.
Ah, c'est une très bonne idée. J'allais vous poser la question de savoir vers quoi vous alliez dériver à la suite. Bon, bien que la Cartazen sur l'informatique va vous occuper pendant quelques mois, voire
quelques années.
Mais c'est bien d'avoir déjà pensé à la suite. Et effectivement, il y a pas mal de domaines dans lesquels ça pourrait être utilisé.
Est-ce que c'est très rentable, finalement? Parce que, comme le disait Sylvain, il y a quand même un gros investissement.
Alors, il y a un investissement, il y a un taux horaire qui nous permet d'être rentable, tout en évitant d'assassiner nos clients, puisque nous sommes en facturation temps réel et vraiment uniquement le temps de travail est facturé. L'auto-occupation des techniciens nous permet d'être rentable, puisqu'on peut passer d'un client à l'autre, notamment quand on fait un redémarrage d'ordinateur, le premier client n'est pas facturé, mais on sait que ça va prendre 5-10 minutes, on peut s'occuper d'un second client.
Pendant 10 minutes et revenir au précédent.
Oui, puisqu'en fait, il y a différentes tâches qui sont possibles. Quand vous faites une mise à jour d'un ordinateur, alors peut-être pas le démarrage qui va prendre 10 minutes, un scan antivirus, on sait tous que ça prend entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Ça nous laisse le temps aux techniciens de passer à autre chose, contrairement à du service à domicile où le technicien doit rester devant l'écran à attendre que le scan soit terminé.
C'est vraiment optimisé. Et alors, on a mentionné tout à l'heure l'expérience des services à la personne de votre associé. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur l'univers complémentaire.
Alors, l'univers est totalement complémentaire, puisque le cas où on ne pourrait vraiment rien faire à distance, nous allons nous dépêcher nos techniciens sur place. Nos techniciens, si c'est sur la région de Marseille ou de Paris, puisque nous avons l'intention de développer l'agence de Marseille, mais également un réseau de partenaires que nous sommes en train de développer partout en France. Et là, le service à la personne rentre en jeu, avec en tout cas pour l'instant, les notions d'économie d'appel.
Le mot de la fin.
Oui, Stéphane, vous m'avez doublement bluffé, parce que vous avez sorti un service qui est un service intelligent, et parce que vous nous dites dans votre fiche que vos premiers euros sont venus de votre banquier, dites donc. Seriez-vous réellement chef d'entreprise ou est-ce que vous nous racontez des histoires? Comment se fait-il que votre banquier vous ait prêté de l'argent, du coup?
Alors, effectivement, nous avons réussi, au-delà de notre fonds propre et du capital, à convaincre un banquier, qui est votre partenaire aujourd'hui.
Ah,
et,
très bien, bravo.
Et qui a suivi le projet et qui a trouvé le projet digne d'avenir.
Donc BNP Paribas.
Donc BNP
qui est notre
Paribas.
Partenaire, qui et voilà, vous voyez, je suis bien tombé. BNP Paribas a prêté de l'argent.
Notre fidèle sponsor.
À CZN Group ou à
CarteZen.
À CarteZen. C'est formidable, bravo, parce que c'est quelque chose qui est absolument indispensable et il n'y en a pas beaucoup de banquiers qui font ça.
BFM Academy 2011. Ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Petit 1, vous ouvrez le site cartezen.fr. Petit 2, vous cliquez sur demande d'assistance. Petit 3, vous grattez l'étiquette, vous saisissez votre code client et un technicien vous dépanne. A tout de suite.
Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge.
Challenge sort la cote des diplômes 2011. Au banc d'essai, toutes les écoles de commerce, d'ingénieurs, les masters universitaires et spécialisés, MAE, MBA et les facs qui cartonnent avec pour chaque formation les salaires, les taux de CDI et d'insertion. Tous les diplômes sont dans Challenge.
BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Sylvain Oribi sur BFM Business.
727 sale bags, ça n'est pas une bande dessinée.
BFM Academy 2011, la mouche du coach.
Et ça ne se boit pas non plus. 727salebags.com, c'est notre deuxième candidat, Erwan Goulin. Il a créé ça avec Jean-Baptiste Roger et Anna Bayou. Il fabrique, c'est un maroquinier qui fait tout à la main, tout en France, et qu'avec des modèles uniques. Chaque modèle est unique, car tout simplement, les modèles de sacs à main, de sacs de voyage, de pouf, sont réalisés à partir des toiles de bateaux recyclées. Et certaines toiles de bateaux, enfin, des toiles, oui, c'est ça, des toiles de voile. Voilà. Et certaines ont eu des passés illustres, extraordinaires, car elles ont équipé des bateaux de grands navigateurs qui ont fait le tour du monde avec et voire remporté des grands trophées. Et donc il est venu nous raconter cette histoire où on trouve des sacs de femmes, des sacs d'hommes, des produits design et décoration, également des produits sur mesure que l'on va pouvoir faire réaliser avec les lettres et les chiffres de son choix inscrits dessus, voire des séries limitées. Certains s'arracheront lors de ventes aux enchères car ce sont des collecteurs signés par les skippers eux-mêmes. Quelle histoire incroyable! Et en plus, il collecte de l'argent pour des œuvres caritatives. Il a que des qualités, ce garçon. Et Erwan Goulin, donc avec Jean-Baptiste Roger, ils espèrent qu'ils auront 500 000 euros de chiffre d'affaires à la fin 2011. On est en 2010. Déjà pour cette année, ils sont à moitié moins, mais c'est déjà pas mal. 240 000 euros de chiffre d'affaires estimé pour l'ensemble de l'année 2010. Ève et Sylvain.
Waouh! Quel rythme! Bon, on était très animés avec Sylvain. Alors, donne petit débriefing là sur le sujet, parce que moi, comme je l'ai dit, j'en ai vu passer vraiment plusieurs des projets, enfin des boîtes existantes sur la question de la récupération des voiles, des toiles, de bâches, tout un tas de matériaux pour faire des sacs. Ce que j'ai trouvé intéressant vraiment dans votre business à vous, c'est ce potentiel auprès des entreprises aussi, de faire des choses voilà, en B2B, spécifiquement pour une boîte, avec peut-être des choses logotées dessus, ou enfin des ajouts.
Ouais, le sac unique signé par le skipper, effectivement, qui devient un cadeau très haut de gamme pour l'entreprise.
Oui, haut de gamme, et puis un peu personnifié.
Oui, unique en plus.
Bon. Mais je trouve quand même que c'est... Alors, le marché se développe et certainement se structure, comme vous le disiez, mais en même temps, je trouve que ça reste très, très spécifique. Vous êtes déjà en train de vous diversifier, de créer d'autres lignes. Voilà, moi, j'ai besoin de comprendre comment vous vous positionnez par rapport aux autres.
Par rapport aux concurrents directs qui font avec de la voile,
exactement.
Ou par rapport aux concurrents qui font avec...
De la récupération.
En fait, on n'est Enfin, moi, je vois pas ça comme de la concurrence. Je vois plutôt comme des acteurs du marché et d'un gâteau qu'on essaye de faire grossir. Et donc, on aura tous une part qui va grossir avec le gâteau. Donc, je pense que plus des gens comme tout à l'heure vous citiez Chic et Éthique, je crois, il y a Bioom, il y a Réversible, il y a plusieurs entreprises
Pascal
en France
Boucher.
Qui font ça. Avec de la bâche de camion, de la bâche de pub, voilà, Bilum, avec des parquets flottants recyclés. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui se développe, et moi je vois plutôt ça comme une évangélisation d'un marché. Donc après, je sais que nous, on a des concurrents directs qui font exactement la même chose. Comment on essaye de se différencier ou de sortir du lot, c'est essayer justement de
raconter. Quand vous dites en direct, c'est-à-dire qu'ils utilisent des voiles recyclées.
Oui, il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire ça également, ce qui est plutôt bien, parce que ça évite que des voiles partent à la poubelle, donc c'est une bonne chose. Après, ce qu'il faut, c'est essayer effectivement de faire des sacs plus jolis, plus signés, de trouver des concepts, de trouver des associations avec qui on travaille pour reverser et nettoyer les plages et nettoyer les océans, créer un cercle vertueux, quoi.
D'accord. Et mon autre point aussi de remarque, je vois Sylvain qui piaffe d'impatience de vous parler également, c'est sur le prix de vente. C'est que je trouve, même si évidemment ça a un coût de faire en France avec des couturières, etc., je trouve que le prix, les premiers prix sont quand même encore un petit peu onéreux. Et je pense qu'il y a peut-être plein de jeunes, pour faire cliché, mais certainement pas que, qui voudraient bien s'offrir ce genre d'idée, vous voyez, derrière le sac de récupération, etc. Mais à partir de 120 euros, et c'est plutôt les moins chers, c'est plutôt 180, non, les premiers prix, non?
Oui, ça va de 120 à, effectivement, mais 120 euros, il y a quand même beaucoup de sacs à 120 euros qui partent.
Ouais, 120 euros, ouais. Bon, dans le commerce, en ayant tout un choix de couleurs, etc., on commence à avoir pas mal de choix à partir de ce prix-là pour de la toile. Est-ce que vous pensez que c'est pérenne? Est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir sur cette gamme de prix?
Moi, personnellement, oui, j'en suis même persuadé, puisqu'on voit des marques comme Freitag qui fait ça avec des bâches en voile de camion qui vend les premiers prix à 150 euros. Mmh. On voit, mais même des marques de luxe françaises qui vendent des sacs entre 150 et 1000 euros. Il n'y a aucune raison que nous, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on y arrive même très bien, donc on est très content. On avait beaucoup de doutes l'année dernière sur notre positionnement prix. Aujourd'hui, on voit que des sacs à main, qui sont à 300 euros, on les vend. On les vend parce que l'histoire plaît, parce que le concept plaît.
Mais vous les vendez parce que vous en faites peu, pour le moment, peut-être.
Ça dépend comment on en fait beaucoup.
Ouais, il y a des marques chez qui on se rééquipe. Voyez, est-ce qu'on va s'offrir un deuxième sac?
Ah non, on a pas mal de clients justement qui se rééquipent des anciens clients de Jean-Baptiste.
Vous auriez comme Stéphane un sac à 9,90 €, vous nous en auriez apporté un ici aujourd'hui.
Alors,
on n'a pas eu notre sac, donc on va
montrez-nous le vôtre. Quand tiens, mettez-le là.
Quand
tu
parles de Stéphane, c'est Stéphane Lerouzès, notre autre candidat cette semaine avec sa carte Zen.
Voilà, on le voit, on le touche. Il est beau, il est beau.
Je vais prendre la main parce que si je laisse parler Ève, on en a encore pour une heure. Et je voulais dire que j'aimais beaucoup vos sacs, moi. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais je trouve qu'ils sont très beaux, qu'il y a le numéro de la voile marqué dessus. Je trouve qu'il y a un grand effort de stylisme. Oui, il y a un grand effort de stylisme. Il y a de la réflexion derrière ça, parce que le nom, on n'a pas parlé d'où venait le nom 727. Alors 727, je sais, parce que je l'ai lu sur le site, c'est le premier voilier de Jean-Baptiste Roger était un phare 727. Bruce Phare, c'est un architecte de bateau. Et c'est comme ça que vous avez repris le nom. Il s'appelait Far West, d'ailleurs, avec un très,
très,
très joli jeu de mots. Oui, absolument. Et donc, il y a de l'idée derrière votre marque. Je trouve ça très intéressant, très bien. J'ai aucune réserve sur la qualité des produits, sur l'étendue de la gamme. Je trouve ça très bien. J'ai des petites réserves ou une petite réserve sur vous, en fait, Erwan. Il me regarde avec des grands yeux. J'ai lu votre fiche. Alors, ça fait un petit moment que je fais des dossiers de la BFM Academy. Alors, la vôtre, elle est à peu près deux fois plus longue que celle de tout le monde. Vous nous racontez votre vie. Vous avez l'air très inquiet. Vous trouvez que tout ça est long, très long, compliqué, très compliqué. Tout a l'air un peu difficile. Vous dites la création d'une boîte, c'est comme un 100 mètres. On passe des mois à se préparer. Si on rate son départ, c'est foutu. Mais non, heureusement que c'est pas foutu quand on rate son départ. Et puis après, vous dites, c'est comme le départ d'un marathon, le plus dur est devant. On a l'impression qu'il y a plein de problèmes qui vont arriver sur vous, alors que vous avez beaucoup d'idées, vous dites, vous rêvez de beaucoup de choses, et je crois que c'est une des vraies qualités pour réussir. Vous parlez de Louis Vuitton, on vous le souhaite, mais même si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez en tête de réaliser quelque chose de grand, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont devant vous et que vous en avez peur.
Ah non, on n'a pas peur, au contraire, je pense qu'on est, on essaye de les relever les uns après les autres.
Non, vous, vous, personnellement, Erwan, c'est vous qui avez écrit ça, je crois.
On est, ah oui, on a, j'ai écrit ça.
Sylvain is watching you.
Non, mais s'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, moi, je quitte ma société, je prends un risque, je mets toutes mes économies dans l'entreprise qu'on crée avec Jean-Baptiste et Anna. Donc, il y a un stress, il y a un vrai stress. Ensuite, on fait des sacs recyclés en France.
On va la répéter, celle-là. Je quitte ma société, je mets toutes mes économies dans mon entreprise.
Non, mais ça peut paraître anodin, mais c'est quand même un sacré changement. Dans une vie professionnelle, on change de bord, quoi. Donc après, il y a ce stress de se planter, tout bêtement. Il y a, je sais pas, 7 boîtes sur 10 qui se plantent en 3 ans. J'ai aucune envie de faire partie de ces boîtes. Nous, mon objectif à moi, c'est résultat net positif tous les ans. La première année, résultat net positif. Donc on est super content. Et si il y a des stress ou des craintes, c'est parce qu'on est ambitieux, on est rêveur et on sait que ça va être difficile, et ça a été difficile cette année, et on se donne des, on essaye de se battre.
Est-ce que vous avez suffisamment les pieds sur terre? Est-ce que vous n'êtes pas trop exalté par ce que vous voulez réaliser?
Les pieds sur terre, si première année on fait un résultat net positif, je pense j'ai plutôt le profil d'un bon père de famille. Après, peut-être que justement c'est ce côté-là qui ressort.
Première année, c'est fin 2010 là. Première année, fin 2010, il y a des profits.
Il y aura des profits.
D'accord.
Moi, j'encourage tous ceux qui écoutent BFM Academy et qui veulent s'inscrire bientôt en écrire autant que vous l'avez fait, Erwan, parce que je vous garantis que pour faire le casting, j'ai beaucoup plus de matière quand les gens livrent toutes leurs impressions comme ça. Donc, pour la peine, on n'était pas d'accord.
On n'est pas d'accord
sur ce
avec Eve s'ennuie dans la vie, elle aime bien avoir des dossiers très longs.
Ah non, mais c'est un festival, effectivement, d'informations, de vos impressions. Et c'est en particulier ce qui m'a donné envie de vous recevoir, peut-être plus que d'autres boîtes qui font des sacs dans des matériaux de récupération. Parce que la complémentarité des trois associés m'apparaît très nettement. Et je pense que c'est vraiment un point fondamental. Vous savez, il y a un des big boss de Silicon Valley dernièrement là, qui citait les 7 atouts pour réussir son business, enfin plutôt dans le web, et il disait qu'un des points essentiels, c'est de connaître ses associés, d'avoir travaillé avec eux avant l'association. Alors c'est génial, mais c'est un peu idéaliste, et quelquefois c'est pas le cas. Mais là, vous vous êtes connus avant dans un environnement qui vous touche, donc moi je pense que tout ça sont plein de points qui doivent aussi probablement rassurer les investisseurs. Mais moi, je serais très, très vigilante à investir beaucoup en création, à regarder les univers de mode, de tendance et de façon dont vivent les gens avec leurs bagages et leurs sacs, au-delà du monde de la voile. Sauf si vous voulez vendre absolument que aux fans.
Aujourd'hui,
notre
clientèle, c'est très peu les purs voileux, comme vous l'entendez ou comme peut-être vous le pensez. Aujourd'hui, 80% de nos clients sont plutôt des clientes et ce sont des non voileux. Donc, ce sont des gens qui aiment la mer, qui aiment le bord de mer, qui aiment l'esprit marin.
Que ça fait rêver.
Et qui ne passe pas ses vacances au bord de l'eau et qui n'a pas envie de ramener un petit souvenir.
Vous allez faire des vêtements avec vos voiles?
Peut-être un jour, on a déjà fait des tests de vêtements, oui, des vestes. Notamment, j'ai eu une veste que j'ai eue pour mes 30 ans par monde, mes associés qui m'ont offert ça.
J'ai beaucoup aimé dans votre... J'ai réussi à tout lire de ce que vous avez écrit.
Bravo.
Et donc, j'ai beaucoup aimé une chose. Vous dites, il faut que je le retrouve, vous dites, je suis... être pessimiste, ça vous rend heureux. Je suis un pessimiste du business. Vous êtes un pessimiste heureux, dites-moi.
En fait, je suis avec Jean-Baptiste et Anna, qui sont des optimistes finis. Et moi, je suis le pessimiste des trois. Et je suis le papa du truc qui essaye justement de ne pas dépenser trop de sous, de faire attention à bien en gagner. Et finalement, je suis hyper heureux parce que même là, c'est le bilan de la première année. C'était génial. On s'est éclaté.
BFM Academy 2011, le 25 juin, il n'en restera qu'un.
Mais avant le 25 juin, il n'en restera qu'un au terme de cette émission entre Stéphane Lerouzès avec carte-d'unionzen.fr et Erwan Goulin avec 727sailbags.com. Sail pour naviguer, hein, pas pour vendre. Sailbags.com, et c'est vous qui déciderez sur le bfmbusiness.com comme le veut la tradition de cette émission. Alors pour terminer, on va... raconter quelques petites histoires avec Eve Chégaray, et notamment une histoire qui m'a bien plu. Ça s'est passé il y a quelques jours au sein de l'incubateur de Sciences Po, en présence de Richard Descoings, que je ne présente plus quand on parle de Sciences Po. Et là, il y avait deux anciens de la BFM Academy, plus une troisième entreprise qui venait annoncer des choses assez extraordinaires.
C'est hyper extraordinaire et ça se tenait. Alors, il y a eu une partie à l'incubateur et puis aussi chez l'un de ces trois entreprises. On vous parle régulièrement, parce qu'on est bluffé par leur développement, des dîners d'Héloïse. Vous savez, c'est des chefs à domicile. Ils ont décidé d'ouvrir un lieu
Une grande salle de réception.
Voilà, avec l'ancien traiteur du Marais. Ils sont associés, deux boîtes venues dans BFM Academy. Ils ouvrent ce lieu incroyable qui est rue de Valois, derrière le Palais Royal à Paris.
On dit pourquoi il est incroyable. Hein,
parce que c'est la première salle de réception totalement écologique.
HQE. Voilà. Voilà.
Haute qualité environnementale.
Donc ça s'appelle le 8.
Le 8 Valois.
D'accord.
Et donc Richard Descoings est venu là. Et ces trois jeunes entreprises ont en 30 mois créé 30 emplois à L3 et levé 5 millions d'euros.
Yes, on n'est pas là pour
donc,
rien quand même. Hein.
Ouais, voilà. Encore. On termine l'émission avec encore une entreprise qui arrive à lever des fonds comme AirSure tout à l'heure. C'est très enthousiasmant et c'est la preuve qu'on a de bons candidats ici à la BFM Academy.
Et il faut voir l'endroit quand on a un mariage, une fête ou un événement. Et leur première prestation sur place, c'était quand même Google avec 700 personnes, leur premier client de ce lieu.
Ouais,
donc ils démarrent quand même très
j'espère
fort.
J'espère que c'est haute qualité gustative aussi.
Ça c'est plus à prouver. Il faut avoir testé. Je sais que Nicolas avait testé le premier.
Ouais. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il viendrait dans la BFM Academy. Je me trouve un jour dans une réception où il y avait un traiteur incroyable.
Un des nombreux cocktails où vous allez, Nicolas.
Non. Je vous assure que les pinces-fesses, je les cours pas. Mais j'étais là effectivement. C'était d'ailleurs, je sais plus quel projet, mais c'était vraiment typiquement BFM Business comme projet. Et là, je me trouve, oui, ça doit être ça. Et je me trouve à découvrir ce traiteur et je me dis, mais quel est ce traiteur incroyable, pensant que j'allais trouver un grand nom classique. Un grand nom connu, ben non. Et je me trouve en fait né avec le fondateur du Traiteur du Marais qui est venu quelques temps plus tard à la BFM Academy.
Et alors une autre petite nouvelle William Pérez.
Alors
qui
c'était
a monté
Sobeuzy, William Pérez, en mars 2008. La vitrine numérique en trois dimensions.
Exactement. Voilà. Alors rappelez-vous, Sobeuzy, William Pérez, c'est un ancien Dassault System. Il a monté ce système qui vous permet d'avoir des showrooms en ligne. C'est très bien fait. Et comme c'est un serial entrepreneur lui aussi, il a depuis un nouveau projet qu'il lance avec des amis, tout en continuant à développer Sobeuzy, ça s'appelle Futurise-moi. Et alors c'est un concept complètement dingue, c'est-à-dire que partant du principe que des gens qui ont peut-être eu des expériences en commun avec vous ont eu certaines suites dans leur vie, si vous rencontrez des gens qui ont vécu la même chose que vous vivez maintenant il y a quelques années, ça va pouvoir prédire votre avenir. Alors je ne sais pas
Madame Soleil.
Où il veut en venir bon. Exactement.
En tout cas ça, va plaire à l'Institut de France ça Futurise-moi.
Hein, oui, il met de gros moyens. Voilà.
Alors, il va falloir utiliser le podcast à fond pour réécouter ce qu'a dit Eve pour comprendre exactement ce que l'avenir et le futur viennent faire là.
Allez, c'est à vous de voter. BFMbusiness.com. On se retrouve la semaine. Ah non, pas la semaine prochaine. On va marquer une petite pause de Noël et on va se retrouver au mois de janvier. Donc à l'année prochaine.
Maintenant, votez sur BFMbusiness.com pour élire le vainqueur de BFM Academy 2011.